Voilà des jours qu'Héloïse souffre dans sa chambre. Des maux de ventre terribles, comme des coups de poignard dans ses intestins. Ses draps sont constamment trempés de sueur, et ses sanglots hantent la maisonnée des nuits durant. Son père, Jean Bossuet, est impuissant face à la maladie qui semble ronger sa fille. Malgré ses malheurs, il fait tourner son établissement coûte que coûte. Ses draperies continuent à se vendre à prix d'or. Pour la deuxième fois cette semaine, Jean fait mander le médecin de la ville. Son serviteur accourt et dévale les escaliers en direction de la rue. Il commence à connaître le chemin pour aller chercher l'homme de science, diplômé de la prestigieuse Académie royale de médecine à Paris, censé ramener son Héloïse de ses lointaines limbes. L'homme est courbé, la barbe longue et le geste leste. Il entre dans la pièce et salue Jean d'un mouvement de tête. « Je ne peux vous faire plus d'onguents. Les médicaments doivent faire leur effet sur votre fille avant que j'essaye de nouveaux traitements. » « Mais elle souffre, docteur, » répond son père, les yeux rougis. « Nous ne pouvons pas contrecarrer toutes les maladies rongeant l'humanité, » assène le médecin. « En revanche, je peux vous proposer un remède. Il soulagera ses douleurs. « Combien voulez-vous ? » ?»« 10 louis devrait suffire. » Dehors, le soleil commence à amorcer sa lente descente vers l'horizon. Un rayon de lumière berce chaleureusement le salon. Les pas du père se rapprochent. Quelques secondes en suspens. Il débarque dans la pièce avec le dû pour son médecin. Tous ces traitements commencent à coûter horriblement cher, pense-t-il amèrement. Après la transaction, Jean demande « Que pensez-vous des magnétiseurs, docteur ? On en fait grand bruit dans les journaux. Il semblerait qu'un s'est installé dans la ville depuis peu et si j'en crois les dires du marché, ses services seraient miraculeux. » Baliverne, mon brave ! Ne vous laissez pas berner par ces 10 heures de bonnes aventures et autres charlatans des campagnes. Si seulement Mesmer avait pu prouver la véracité de son fluide, ou, tout du moins, rester en Autriche. Mais ces théories ne sont que charlatanisme, corruption, débauche et libertinage. Fuyez ces soins comme la peste. Ils n'apporteront à votre fille que désillusions et malheurs. La réaction du médecin semble disproportionnée, surtout vu l'inefficacité apparente de ses propres traitements. Pourtant, son discours n'est pas anodin durant les années 1780. Le magnétisme animal, création théorique du médecin autrichien Franz Anton Mesmer, a excité la curiosité et l'intérêt du grand public français dans cette période pré-révolutionnaire. À une époque où les sciences commencent à prendre de l'ampleur, elles fascinent le public, comme une foi nouvelle dans un futur potentiellement sans Dieu. S'inscrivant dans un écosystème de pensée où les théories de Newton sur l'éther ont un vernis scientifique que nul n'oserait remettre en cause, le magnétisme animal va voir son interdiction prononcée par Louis XVI en 1784. Cet interdit est-il à l'image de ce que le médecin semble dénoncer ? Ou les raisons étaient-elles purement médicales ? Ce sont les questions auxquelles je vous propose de répondre aujourd'hui, dans ce podcast narratif réalisé pour le festival Histoire et Cité.
Histoire.
Jean regarde le liquide dans la fiole à moitié vide vendue par le médecin. Ses reflets grisâtres tournoient dans des formes de volutes abstraites. Sa fille est couchée à côté de lui, somnolente. Sa respiration est saccadée, entrecoupée d'interruptions qui laissent présager le pire. Le père ne sait plus quoi faire. Ses soins médicaux lui coûtent une petite fortune sans pour autant laisser entreapercevoir des améliorations significatives. Il repense à ce que le médecin lui a dit sur les magnétiseurs. Avait-il raison ? Beaucoup au salon lui ont assuré que ce n'était là que foutaises et jalousies. Le magnétisme a fait ses preuves dans bien des cas. Jacques Dupotet est arrivé en ville depuis quelques mois. Installé dans une coquette maison de la rue Marchande, ce médecin magnétiseur parisien appose ses mains guérisseuses sur tout le monde, sans distinction de rang social ou de fortune. Sa bienveillance lui fait excellente réputation, et bientôt une longue attente se forme pour pouvoir profiter de ses conseils et de son expertise magnétique. Ce matin-là, il doit se rendre au chevet d'une jeune fille, descendance d'un riche marchand de la ville. Une fois rentré dans leur demeure, Jean mène le magnétiseur au chevet de sa fille. Elle est réveillée, regardant la fenêtre depuis son lit. Les traits sont tirés, le regard hagard. « Comment vas-tu, Héloïse ?» demande doucement Jean. « Je ne sais pas, c'est confus, père. Les douleurs viennent et repartent constamment. » « Mademoiselle, » dit Jacques en baissant la tête, « permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Jacques Dupotet et je suis un médecin magnétiseur arrivé il y a peu dans la ville. J'ai reçu mes enseignements directement du grand Mesmer. » « Qui donc ?» demande la jeune fille, le regard toujours tourné vers l'extérieur. « Ce n'est pas très important. Votre père m'a demandé d'essayer de vous magnétiser. Êtes-vous d'accord ?»« Est-ce dangereux ? Douloureux ? Pas le moins du monde. C'est un traitement totalement indolore et efficace. » Héloïse hoche la tête après quelques secondes. Le magnétiseur se rapproche d'elle et d'un geste calme lui demande de s'allonger dans son lit. Il ferme les yeux. Son souffle ralentit et le battement de son cœur baisse. Les sensations deviennent exacerbées, une forme de conscience aiguë des choses environnantes. Il ressent sa patiente, les fluides qui l'entourent et connectent ceux-ci à son propre corps. Ses réserves magnétiques sont grandes, son pouvoir étendu. Jean contemple la scène, avec un mélange de curiosité et de crainte. Il voit les mains du magnétiseur quitter ses cuisses pour aller s'apposer à quelques centimètres de la peau de sa fille. Cette dernière tressaille à leur approche. Dans sa tête, Jacques perçoit les différents pôles magnétiques de sa jeune patiente. Le nez, les oreilles, le ventre et les côtés latéraux de l'abdomen. La crispation a lieu au niveau de l'estomac. Il sent le blocage. C'est ici qu'il doit travailler, qu'il doit fluidifier le magnétisme intérieur de la jeune femme, rétablir l'harmonie avec le ciel. Le souffle d'Héloïse ralentit, se calme. Les soubresauts pulmonaires ont disparu et son état approche celui de la transe ou celui du sommeil. Ses yeux se ferment et la tranquillité l'envahit. Son corps commence à trembler puis retombe. Une sorte de paix éphémère s'installe. Quel est donc ce fluide que le magnétiseur Jacques Dupotet manipule ou tout du moins semble manipuler? Cette thérapie cathartique doit, à travers les crises provoquées par l'imagination du patient et son magnétiseur, permettre de détruire les blocages intérieurs. Tout est aimant, autant l'univers que la Terre, et la maladie est le signe d'une désharmonie entre ces différents pôles magnétiques. Une mauvaise circulation de ce flux à l'intérieur du corps serait à l'origine des maladies et des maux affectant l'humanité. Ce fluide universel, invention de Mesmer, se révélerait lors de crises, parfois violentes. Ces dernières permettraient aux patients d'atteindre un état de transe et de toucher à un monde parallèle, tout en développant une sensibilité extrasensorielle. L'invisible devient palpable, et les possibilités sont immenses. Le malade magnétisé peut comprendre sa maladie, voir ses organes internes et prédire le temps que durera sa guérison. Parfois, ces états médiumniques se rapprochent de ce que les contemporains connaissent sous le nom de possession. À la différence que le magnétiseur est dans un relatif contrôle de l'état de la personne sur laquelle il agit et qu'il tente de guérir. Bien que la théorie principale de Mesmer relie sa mise en pratique à la médecine et aux soins du corps, une large partie de sa thèse soutenue à Vienne en 1766 élabore une conception globale de l'influence des corps célestes, de la Terre et des êtres vivants sur la santé des individus, passant alors par un fluide universel. Il entrerait en résonance, à la manière des aimants, avec le flux présent dans le corps de tout un chacun, avec la possibilité, pour les mieux lotis, de pouvoir le redistribuer aux personnes en ayant besoin et qui sont en état de déséquilibre magnétique. Ce qui est frappant, c'est la proportion élevée de médecins et de chirurgiens, mais aussi quelques hommes d'église, qui pratiquent le magnétisme. Certaines facultés de médecine iront même jusqu'à l'étudier. Ces nouvelles manières de faire les soins auront un succès retentissant en France et en Europe, à partir des années 1784 et 1785. C'est dire l'efficacité des interdictions prononcées durant ces mêmes années. Bien que les premières personnes pratiquant ces nouvelles thérapies, ces nouveaux rapports au corps et à l'univers, appartiennent à la haute société viennoise et parisienne, notons ici que Marie-Antoinette elle-même pratiquait le magnétisme et fréquentait l'Autrichien Mesmer, le mesmérisme connaîtra également un énorme succès auprès des couches populaires. Une forte dimension spirituelle est présente chez les pratiquants du magnétisme, avec des manifestations impressionnantes, extraordinaires, de transe durant les séances. Cela va favoriser l'émergence de nouveaux rapports au monde, de nouvelles manières d'appréhender l'invisible et de comprendre ses implications dans la psyché humaine. Ces considérations métaphysiques, loin d'être saugrenues dans cette période pré-révolutionnaire, n'ont aucune peine à trouver des adeptes et des défenseurs. En effet, l'existence de ce fluide n'a rien d'extraordinaire dans une société où relier monde réel et métamonde ésotérique fait sens pour beaucoup. Ce flux magnétique est probable dans un système où l'éther de Newton reste largement admis et discuté. La science médicale est à une période charnière de son développement. Elle est encore très imprégnée de ses anciennes conceptions, humeurs, flux et autres théories antiques. Cependant, un reproche est fait par la communauté médicale au mesmérisme, qui est d'ailleurs un des autres noms donnés au magnétisme animal. Ce dernier donne une interprétation simple de la santé des gens, amenant des fumistes à abuser de la confiance des personnes. Ce qui pousse certains médecins à défendre cette pratique magnétique, éviter ainsi que le magnétisme ne soit pratiqué que par des charlatans, ne connaissant pas les mécanismes subtils du corps humain. Ce bouillon de théories en tout genre, dont le mesmérisme est l'une des figures de proue, forme une articulation fine entre le visible et l'invisible, entre la science médicale balbutiante, les théories spirituelles et la puissance du cerveau sur le potentiel de guérison des personnes. Certains parleront plus tard des prémices de la psychologie et des potentialités liées à l'effet placebo. Le magnétisme forme une parfaite jonction entre la science, cherchant à décrypter le réel, et la religion, maîtresse des invisibles et du rapport au divin. Depuis plusieurs jours, Jean pleure la mort de son enfant. Avant ça, les séances avec le magnétiseur ont permis un répit pour sa fille, les mains guérisseuses allégeant ses douleurs. À un moment, ils ont même espéré une amélioration significative. Elle recommençait à marcher, à rire durant les heures qui suivaient les rendez-vous avec le magnétiseur. Aucun des traitements donnés par le médecin n'a semblé procurer un effet similaire. Comme preuve de bonne foi, le magnétiseur n'a pas exigé de paiement durant les premières séances, arguant que la vie d'une si jeune existence prévalait largement sur le besoin pécunier. Jean a enterré sa fille quelques semaines plus tard, morte calmement dans son lit, le visage apaisé. Le trouble du père s'est intensifié. Il rêve de ce visage juvénile et souriant, qui rit encore et encore. Même si la mort a soulagé sa fille, Jean refuse ce constat. Il refuse que sa petite Héloïse soit partie si tôt. Si seulement il pouvait à nouveau la serrer dans ses bras, la prendre avec lui pour lui montrer le marché et la nature. Elle était son espérance, son héritage, le dernier souvenir vivant de sa femme. Il pleure cette indicible douleur, et Jacques Dupotet lui propose gentiment de venir assister à une séance commune du baquet. Le désespoir de ce père de famille est compréhensible. Bien que le magnétisme animal ne puisse pas expliquer avec certitude les ressorts subtils du malheur qui s'abat sur notre homme, il va ouvrir la voie à une partie d'un champ disciplinaire spécifique, la psychologie. Le mesmérisme soulève certaines questions auxquelles la psychologie donnera des réponses bien des années plus tard, comme le souligne l'historienne Nicole Edelman. La pratique du marquis de Puységur, un des disciples de Mesmer, va profondément influencer les nouvelles questions que cette période si particulière va soulever. Le somnambulisme magnétique, renommé hypnose au XIXe siècle, permet de scruter un état où la conscience est absente, une forme de césure dans l'unité du moi, tout en rendant poreuses les limites entre la matière et le corps. Ces états de conscience altérés, comme nous le dirions de nos jours, permettent également une expérience mystique, se rapprochant d'une transe, mais s'exprimant au travers de personnes aux horizons confessionnels différents, aux imaginaires spirituels changeants. Au-delà de sa portée sur les futures sciences psychologiques, ce type de considération soutient la réémergence des voyances et diseurs de bonnes aventures. Cette théorie autrichienne va permettre de donner une assise aux allures scientifiques à des vieilles croyances tombées en désuétude. Le somnambulisme, lui, servira également de caution scientifique pour les arts occultes et autres pseudo-sciences ésotériques. Pourtant, ces dernières considérations n'empêcheront pas le somnambulisme d'être étudié et pratiqué par de nombreuses académies de médecine à travers l'Europe. Science, invisible et croyances parfois convergent entre elles, malgré nos a priori contemporains. Ces théories continueront longuement à animer les discussions, discutant longtemps de la véracité du fluide, même après son interdiction par les cercles savants parisiens. Certains iront jusqu'à soutenir que le somnambulisme n'est pas le fait d'un fluide ou du magnétiseur, mais du magnétisé lui-même, qui agit ainsi sur lui par le pouvoir qu'exerce une tierce personne. Nous parlerions aujourd'hui, dans des termes cliniques, de suggestion. Les théories de Mesmer, puis la découverte du somnambulisme artificiel, vont permettre de tracer une ligne directe entre le magnétisme et l'émergence de la psychothérapie moderne. Ce somnambulisme servira de base à l'hypnotisme du XIXe siècle, puis, influencé par les courants spiritistes, débouchera sur les premiers pas de Freud dans sa découverte de la psychanalyse, selon les travaux du psychiatre suisse Henri Ellenberger. Le mesmérisme développe un lien particulier entre le magnétiseur et le magnétisé, où la relation qu'ils entretiennent prend autant de place dans le processus de guérison des personnes que le magnétisme en lui-même. Certains expliqueront que c'est l'état de conscience dans lequel est plongé le patient qui permet une perméabilité aussi forte aux injonctions du magnétiseur, qui se doit d'avoir de nobles intentions et une réelle motivation à soigner le malade. De la sorte, on explique les crises et les capacités des somnambules à connaître leurs maux et leurs remèdes. C'est ainsi qu'une commission scientifique postérieure à l'interdiction de 1784 va encourager l'étude de cette branche très curieuse de psychologie et d'histoire naturelle, pour reprendre les mots utilisés. Cet état de conscience altéré va donner du fil à retordre aux scientifiques, balançant entre curiosité et rejet de pratiques pouvant se rapprocher des sciences de l'ombre. Plusieurs personnes sont debout autour d'un baquet rempli d'eau et de limailles de fer. Deux tiges de métal en sortent. Jean se tient face à cet étrange dispositif, les yeux fermés. Il serre les mains de ses deux voisins et une fine cordelette relie chaque participant. L'ambiance est tamisée dans la salle et des lumières oranges baignent la pièce. De lourds rideaux empêchent la luminosité extérieure de pénétrer, limitant les perturbations externes. Les tapis au sol sont épais et cotonneux, répondant aux étranges symboles disséminés partout sur les murs. Dans un coin, un orchestre joue quelques notes virevoltantes. Elles viennent caresser les oreilles des personnes dans la salle, mettant tout le monde dans un état de transe profonde. Les souffles se calment et le fluide commence à serpenter dans les corps. Jean ressent la main de sa voisine se contracter et croit percevoir un fin picotement lui piquer la paume. Ses pensées ralentissent et il visualise l'aimant magnétique de sa fille commencer à vaciller dans sa chair. Le flux prend le contrôle de sa psyché. Autour de lui, quelqu'un se met à rire, d'un rire hystérique à vous faire grincer les tympans. Le flot cérébral ne starit pas et Jean se retrouve à trembler. Le visage de sa fille apparaît devant ses yeux. Il hallucine, pensant communiquer avec elle. Son regard se perd dans la contemplation de ce sourire juvénile. Sans s'en rendre compte, Jean est emmené dans une salle capitonnée. Sa crise est violente et les larmes coulent le long de ses joues. Son corps est secoué de sanglots incontrôlés. Allongé dans la salle, il est entré dans un état second. Son âme est puissamment projetée dans les mondes étranges des invisibles, des rêves et des incertitudes. Cette expérience du baquet, beaucoup l'ont vécue, comme Jean. Même si cela représentait un moyen de faire profiter à plus de monde des bienfaits vantés du magnétisme, le baquet est également le signe que les thérapies proposées par Mesmer rencontrent un succès fulgurant. Pourtant, Mesmer ne va pas uniquement utiliser cet insolite objet pour asseoir son autorité et son influence sur les peuples français et européens. Jean marche lentement dans un long couloir, mal éclairé. Devant lui, l'ombre chancelante de son guide avance d'un pas déterminé dans ce dédale. L'homme de maison ouvre une porte sur sa droite et annonce l'entrée du nouvel adhérent de la Société de l'Harmonie. La salle est magnifiquement décorée, dans un luxe feutré. De superbes miroirs côtoient des somptueuses tapisseries, brodées d'or et d'argent. Dans le fond de la pièce siège Mesmer en personne, avec ses deux vice-présidents. Ils sont derrière une estrade, surplombant l'assemblée. Les lumières au mur baignent l'endroit dans une douce ambiance orangée. D'autres hommes attendent leur tour. Une fois tout le monde installé, les portes de la chambre se referment et une clameur sourde monte des estrades. La séance peut commencer. Les discussions s'envolaient, et les morts avec Jean communiquaient. Les sociétés de l'harmonie sont ainsi créées par l'Autrichien, garantissant ses revenus et favorisant la transmission de ses secrets à certains cercles sociaux. Avec une couverture sur toute la France, puis sur toute l'Europe, et une forte centralisation autour de Paris, ces différentes sociétés permettent à Mesmer de s'assurer une rente mensuelle confortable. Ce vaste réseau comprend une structure très hiérarchisée et inspirée des rites maçonniques, dont l'apparente égalité ne permet pas à tout à chacun d'y pénétrer. De De facto, l'inscription à 100 louis filtre les personnes pouvant prétendre toucher à ces cercles très restreints. Les membres de ces sociétés sont donc majoritairement des nobles d'épée, des notables, des avocats, des riches marchands ou encore des membres du clergé. Ces derniers seront un bon moyen pour répandre la pratique du magnétisme dans les campagnes. De plus, à ses débuts, la Société de l'Harmonie comprenait un vaste réseau de professionnels de la santé. La population suit donc avec beaucoup d'intérêt le développement de cette nouvelle manière de faire la médecine. Celles et ceux ne pouvant pas se payer l'entrée, profitant d'illustrations et de contrefaçons bon marché. Après une ardente propagation, des tensions vont apparaître entre les différentes sociétés présentes sur le territoire. Certains aimeraient voir les secrets de Mesmer partagés au plus grand nombre, alors que ce dernier entend garder jalousement son savoir, garantissant ainsi la stabilité de ses revenus. Un schisme s'opère en 1785 et Bergas, un des anciens disciples de Mesmer, quitte l'organisation pour fonder sa propre Société de l'Harmonie. Cette période marque le début d'un tournant occultiste et spiritualiste dans certaines succursales, développant des séances de divination et de communication avec les sphères supérieures et l'au-delà. C'est également un terrain propice à des discussions visant à régénérer la nation dans un contexte de plus en plus tendu pour l'Ancien Régime. Plus nous nous rapprochons de la Révolution, plus les discussions tournent autour des sciences occultes et des rites maçonniques. Le soin des malades commence à passer à un second plan. Selon l'historien Robert Darnton, certains de ces groupes vont former un terreau favorable à l'expression d'un certain radicalisme révolutionnaire. Ces espaces donnent lieu à des discussions pour parler de ces thèmes anti-royalistes. Cependant, il serait malaisé d'en tirer des conclusions hâtives sur la nature sociologique de ces sociétés. En effet, l'idéal d'harmonie se prête à nombre de discours, autant révolutionnaires que réactionnaires. Cela forme une masse protéiforme de théories politiques qui s'égrènent dans ces salons particuliers. La formation d'une pensée radicale va ainsi attirer l'attention des autorités et de la police. Par ces quelques points d'horizon des différents moments clés du mesmérisme au XVIIIe siècle, nous pouvons approfondir la question de son interdiction en 1784 à la suite des rapports de deux commissions commandées par Louis XVI. Selon ces deux commissions, le mesmérisme ne repose sur rien de tangible et l'existence du fluide est réfutée. Les crises perçues durant les séances sont le fruit de l'imagination des patients, de l'imitation et du toucher du magnétiseur. Pourtant, ces conclusions ne vont pas empêcher le mesmérisme d'imprégner profondément les professions des soins, en se développant autant dans les pratiques populaires que mondaines. Toutes ces investigations ne concernent pas le somnambulisme magnétique, qui ne sera pas l'objet de cet interdit. En revanche, un rapport secret est envoyé au roi à propos du mesmérisme. Il le met en garde contre le danger moral que représentent ces assemblées, où règne mixité et promiscuité. Cette proximité entre les hommes et les femmes sont perçues comme un danger pour l'ordre moral de la bonne société parisienne, totalement éprise de ces pratiques. Cependant, ces deux rapports, même s'ils remettent en question l'existence du fluide, soulignent l'efficacité de l'imagination pour traiter les maladies. La médecine de la fin de l'Ancien Régime ne remet pas en cause l'importance de cette imagination dans la guérison ou dans l'aggravation des états qui affectent un corps malade. En revanche, il existe une réelle crainte de la part du corps médical des pratiques relevant des charlatans et du danger d'une médecine populaire simpliste qui empêcherait le recours à des soins efficaces. Nous remarquons sans peine que les préoccupations peuvent être proches des nôtres en ce qui concerne le recours à des médecines alternatives. Certains médecins défendent le magnétisme et estiment qu'il est essentiel que ces pratiques restent dans le giron du corps médical en les y intégrant, afin d'en écarter les charlatans. Une dernière hypothèse, avancée par l'historienne Nicole Edelman, relie l'interdiction du magnétisme à son créateur lui-même, Mesmer. En effet, ce dernier est perçu comme un mondain prodiguant des soins à une certaine élite, de plus proche de Marie-Antoinette. Leur accointance de nationalité renforce ce sentiment de rejet et de haine, également relié à la reine. Comme nous l'avons vu, il existe un lien particulier entre médecine et magnétisme, entre soins des symptômes et soins par les invisibles fluides à nos yeux. Ce débat, qui continue encore à ressurgir de nos jours, permet de voir qu'il n'existe pas un rejet clair et net de ces pratiques dans le corps des professionnels de la santé. En revanche, cela marque le début d'une démarcation nette entre une science réputée sévère et les pseudo-sciences, qui étaient jusque-là encore légion dans le champ des possibles scientifiques. Même si le fluide n'existe pas et n'est que le fruit de l'imagination, cela n'empêche pas de reconnaître ses vertus thérapeutiques, si correctement utilisées. Ces débats ne semblent alors pas rentrer en conflit avec les pratiques de la médecine clinique, alors balbutiante. Le magnétisme, faisant fi de ces interdits, va continuer à être largement pratiqué en Europe comme une magie invisible pour soigner nos maux et nos troubles. Son succès est énorme, mais sa réelle étude scientifique totalement occultée par les autorités savantes françaises des 18e et 19e siècles. Mesmer, en conceptualisant et en déployant sa science, va représenter un point de bascule entre une ancienne manière de pratiquer la médecine, pétrie de magie et de démonologie, et l'émergence de la psychothérapie moderne. Ce courant exercera une influence considérable dans le champ des idées philosophiques, médicales et psychologiques. L'un des exemples les plus marquants reste la découverte du somnambulisme magnétique par Puységur, qui donnera naissance à l'hypnose médicale. Loin de n'avoir influencé que la médecine, le magnétisme a également permis de donner une assise scientifique à des pratiques, comme la voyance, tout en influençant idéologiquement les différents courants romantiques du XIXe siècle. Un nouveau moyen de communication avec le divin, permettant la jonction entre l'esprit et le corps, entre l'être visible et les invisibles qui peuplent nos ombres et nos astres.